Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et bonjour à tous, rebonjour, bienvenue dans RTL Midi, 2 heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. Comme vous le savez, tous les jours, l'info, c'est avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, et à la une, le Covid et Jean Castex qui l'assure, la France est sur la bonne voie d'un retour à la normale. On reviendra aussi sur cette page d'histoire qui s'est tournée cette nuit en Afghanistan. Et puis Emmanuel Macron qui pose ses valises à Marseille, ça c'est pour demain, dans ses bagages, des milliards d'euros pour lutter contre le trafic de drogue.
Ce sera justement notre premier débat dès 12h40, comme chaque jour sur RTL, on s'arrête, on développe, on échange sur deux grands sujets de l'actualité. Le premier donc, trafic de drogue à Marseille, peut-on vraiment régler le problème? Et si oui, comment? Et à 12h50, Didier Raoult est-il un génie incompris ou un gourou mégalo?
Vous avez 2 heures. Avant cela, la météo, et c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Dans l'ensemble, ce sera plutôt pas mal cet après-midi.
Oui, c'est vrai que les nuages au nord vont se morceler et laisser passer de belles éclaircies, toujours plein soleil au sud, juste un petit risque d'averse, voire un orage en montagne, le tout sous des températures de saison de 21 à 24 au nord et de 24 à 29 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Et on commence une fois n'est pas coutume avec ces nouvelles encourageantes dans la lutte contre le Covid. On est sur la bonne voie, ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean Castex, le Premier ministre.
On voit que cette quatrième vague, on va parler avec prudence et maîtrisée, on va dire, à ce stade, contrôlée. Oui, on est sur le bon chemin parce qu'on connaît l'origine du bon chemin, c'est la vaccination. Comme par hasard, on est un des pays du monde, qui désormais vaccinons le plus, ben, c'est pas tout à fait surprenant, effectivement, qu'en conséquence, on soit sur la bonne voie pour retrouver une vie normale.
Sur la bonne voie pour retrouver une vie normale. Jean Castex en déplacement ce matin dans le Bas-Rhin. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Vous êtes notre spécialiste santé ici à RTL. Il a raison d'être optimiste, le Premier ministre.
Absolument, même s'il faut rester évidemment très prudent. Beaucoup d'indicateurs vont dans le bon sens. D'abord, le nombre de contaminations est en baisse constante depuis la mi-août. Moins 18% par exemple ces 7 derniers jours par rapport à la semaine d'avant. Même si la tension reste forte dans les hôpitaux, notamment en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, on est depuis le 23 août sur une sorte de plateau avec 11 000 malades actuellement hospitalisés. Quant au nombre d'admissions en réanimation, il progresse certes, mais extrêmement lentement. La seule véritable inquiétude, bien sûr, c'est la saturation des services de réa de Guadeloupe, de Martinique et de Polynésie. Quant à la vaccination qui protège des formes graves, on est à des niveaux très élevés, même si on observe, d'après le ministère de la Santé, un ralentissement depuis 3 semaines. 80% de la population majeure en France est complètement vaccinée. C'est ce qui a permis sans doute aux hôpitaux de métropole de ne pas être débordés. Maintenant, il va falloir surveiller de très près la rentrée scolaire avec tous les risques engendrés. Et puis bien sûr, continuer à respecter les gestes barrières.
Merci beaucoup Odile. Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. La rentrée, on le rappelle, c'est jeudi. RTL qui vous le révélait dès hier soir, le pass sanitaire est plutôt bien respecté depuis son entrée en vigueur. Les forces de l'ordre ont procédé à 179 000 contrôles et à l'arrivée, 1331 verbalisations. Guillaume Chiez, ça fait 0,7% de sanctions.
Oui, c'est un chiffre très bas, surtout si on le compare à celui des verbalisations pour non-port du masque ou non-respect du couvre-feu. Lors des 3 confinements précédents, à l'époque, en moyenne, un contrôle sur 20 donnait lieu à une amende. Dans le détail, les opérations des forces de l'ordre se sont intensifiées depuis le 9 août. Policiers et gendarmes peuvent désormais contrôler les clients de bars, de restaurants, de trains et de certains centres commerciaux. Et l'infraction qui revient le plus souvent, c'est celle de la présentation d'un pass sanitaire qui appartient à une autre personne. On retrouve ensuite l'absence de documents et l'incitation à utiliser un pass frauduleux. Autre chiffre, depuis le 20 juillet, les établissements recevant du public sont également contrôlés par les policiers. Sur les 15 000 opérations menées hors Paris, 400 établissements ont été verbalisés car ils ne vérifiaient pas si leurs clients disposaient bien ou non d'un pass sanitaire.
Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Autre chiffre à retenir ce midi, celui de l'inflation. 1,9% au mois d'août. La hausse des prix s'accélère et pas qu'un peu, si j'ose dire, Barcelio.
Eh bien oui, puisqu'on enregistrait une hausse des prix de 1,2% en juillet, donc 1,9% en août. Et quand on regarde sur toute l'Europe, les étiquettes progressent de 3% ces dernières semaines. La hausse des matières premières agricoles fait que les prix alimentaires et les produits agroalimentaires augmentent. Les fruits étaient très chers, par exemple, cet été. En grande surface, les industriels commencent aussi à répercuter le coût de transport, la hausse des emballages parce qu'on manque de carton, de bois pour les palettes. Et puis, il y a bien sûr le prix de l'essence qui est en hausse. Dans l'habillement également, la fin des soldes en août a fait remonter mécaniquement les prix des vêtements dans les magasins.
Alors, c'est une hausse, 1,9%, on l'a dit au mois d'août, mais paradoxalement, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
Ben non, non, parce que l'inflation, c'est le signe d'une économie qui repart, c'est synonyme de croissance. Les prix augmentent quand il y a plus de demandes que d'offres, et quand les prix augmentent, eh bien les entreprises peuvent répercuter le coût de fabrication dans les prix et donc améliorer leurs marges. Elles peuvent ensuite augmenter les salaires. C'est bien pour ça qu'on parle depuis une semaine maintenant d'augmenter les salaires, aussi bien chez les patrons que du côté du gouvernement.
Merci beaucoup Martial. Martial Liu, chef du service économie de RTL en Afghanistan. À présent, cette page d'histoire qui se tourne. Après 20 ans de guerre, le dernier soldat américain a quitté cette nuit Kaboul. L'image tournée avec une caméra à vision nocturne, ce qui donne une image verte, a fait le tour du monde. Au même moment, côté taliban, ses tirs à l'arme automatique. Des tirs de victoire, la défaite des Américains est une leçon pour d'autres envahisseurs et pour le monde. Voilà ce qu'a déclaré tout à l'heure un porte-parole des talibans. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
On apprend ce matin que les Américains ont laissé des tonnes d'armes sur place, l'équivalent de plus de 70 milliards d'euros selon le quotidien britannique The Times.
Oui, après 20 ans de guerre, impossible dans la précipitation de rapporter tout ce qui a été acheminé et livré aux forces afghanes. Selon certains médias américains, même, ça représente plus de 20 000 Humvee, vous savez, ces gros 4x4 de l'armée, 169 chars, plus de 300 000 fusils d'assaut et une centaine d'hélicoptères, presque autant d'avions. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce matériel est utilisable. Dans la mesure du possible, les forces qui se retirent ou qui abandonnent ces équipements doivent les démilitariser, les saboter. Sur l'aéroport, il reste des hélicoptères cassés dont les équipements les plus sensibles ont été retirés. Mais ce matin, quand même, à Kaboul, des talibans sécurisaient le tarmac avec ses 4x4 et équipés de matériel léger américain. Et juste pour mettre ce chiffre en perspective, 71 milliards d'euros, c'est une dépense qui se répartit sur plusieurs années quand on sait que le budget annuel de la défense américaine est de plus de 600 milliards d'euros.
Brice Dugénie du service étranger de RTL. Emmanuel Macron, lui, sera demain après-midi à Marseille. Une visite de 3 jours jusqu'à vendredi soir. Clairement, le chef de l'État veut montrer qu'il ne vient pas pour rien. William Galibert, bonjour.
Bonjour.
On sait déjà à peu près dans les grandes lignes ce que va annoncer le président.
Oui, à Marseille, les urgences sont partout. Le président veut les traiter à coups de milliards. Il y a urgence à l'école. D'abord, les murs qui se lézardent, les rats qui se baladent dans les cantines. C'est une réalité. Il va falloir rénover, reconstruire. Normalement, c'est une compétence de la municipalité, mais le maire de Marseille le dit tel quel. Les caisses sont vides. Alors c'est l'État qui devrait, d'après nos informations, débloquer au moins 1 milliard d'euros pour ces écoles. Pour l'habitat insalubre, là non plus, un coup de pinceau ne suffira pas. Des annonces sont attendues. Idem pour les transports, pour l'emploi, mais aussi pour la sécurité, la lutte contre les trafics, avec 300 policiers supplémentaires déjà promis. Préparez-vous à voir Emmanuel Macron partout, des quartiers nord aux Calanques, où il ira même faire un tour en bateau.
Bon, mais le premier plan pour Marseille, pardon.
Non, pas le premier plan. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, président, premier ministre, ils sont tous déjà venus à Marseille avec des cadeaux plein les bras. L'Élysée, à qui j'ai demandé, est même incapable de faire le compte. Mais promet que cette fois, tout a été construit avec les élus locaux et qu'on va surveiller exactement ce qui sera fait avec l'argent. Mais ce n'est pas non plus la première fois qu'on entend ça.
Et puis on verra si le président va dans la cité des marronniers, là où le jeune Ryan,
a été
de 14 ans, est tombé. Et j'imagine que le président doit se poser la question. Est-ce qu'il va y aller ou pas ?
Aussi d'une rencontre avec les parents de l'adolescent, mais pour l'instant, l'Élysée nous dit que ce n'est pas prévu.
Et on reviendra sur ce plan, ce qui peut être annoncé dans 3 minutes. Ce sera le premier débat d'RTL midi. Avant cela, le foot, et ça y est, le compte à rebours est lancé. Vous entendez le tic-tac, plus que 11h30. Allez, 11h21 précisément, avant la fin du mercato. Ce sera à minuit ce soir. A priori, pas de changement finalement pour Mbappé. Je dis a priori, car le Real a décidé hier soir de stopper les négociations avec le PSG. Mais tout peut encore arriver. Et puis, du côté des Jeux paralympiques à Tokyo, une 6e médaille d'or pour la France. Il y a quelques minutes, Charles-Antoine Kouakou qui remporte le 400 mètres un peu plus tôt. C'est le duo Alexandre Yoveras et Corentin Hermenot, champion olympique de contre-la-montre sur route en tandem. On les écoute.
de fou. On a tout donné, on a tout donné, on a poussé jusqu'au bout. Et après avoir passé la ligne, les secondes elles paraissaient comme des heures. C'était très long avant qu'on nous annonce la confirmation. C'est une Marseillaise. Il n'y a rien de plus beau. Et cette première médaille, ce premier titre paralympique, c'est pour la famille. Pour toute la famille qui me soutient depuis le début. Merci à la famille, merci à mon père et merci à ma mère. Elle est pour elle, cette médaille.
Il a tout dit. Le bonheur, le bonheur, le bonheur.
Alexandre Jovéras et Corentin Hermenot, champion olympique donc avec nos confrères de France Télévisions. On est à 33 médailles, 6 en or, 9 en argent et 18 en bronze. La France est pour l'instant 13e au classement, Pascal.
Deux débats à venir. Trafic de drogue à Marseille, peut-on vraiment régler le problème? Et en sous-texte, où est passé l'État? Parce que on se pose aussi la question à Paris avec le Jardin des Halles. Et puis à 12h50, Didier Raoult est-il un génie incompris ou un gourou mégalo? A tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Ça a été annoncé là, les moyens arrivent le 1er novembre. Si moi je vous dis que ça va se faire en deux jours, ça serait un gros mensonge.
Manuel Valls assure auprès des habitants le service après-vente de son nouveau plan pour la police de Marseille présenté ce matin.
La lutte contre la drogue, c'est plus qu'un enjeu policier. C'est un enjeu de société. Nous voulons frapper fort.
C'est bien évidemment plusieurs centaines de millions d'euros qu'il va falloir investir sur cette ville, pas pour faire un plan de rattrapage, pas pour faire un énième plan. Il faut se donner les moyens de mettre fin à cette gangrène.
Des plans, vous venez de l'entendre, Marseille en a connu des dizaines et des dizaines ces dernières années, à la veille de la visite d'Emmanuel Macron. Premier débat, premier sujet d'RTL Midi, peut-on vraiment régler le problème qui gangrène la ville? Et si oui, comment? Bonjour Rudy Mana.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Il faut se donner les moyens, plusieurs milliards d'euros pour stopper cette grande graine. Ça, c'est ce que disait à l'instant le maire de Marseille. C'est ça la solution, de l'argent? Il y en a pourtant eu des milliards au cours de ces dernières années.
Écoutez, si c'est la solution pour le président de la République qui a consulté le maire de Marseille, qui a mis 2 mois à faire sa première déclaration après le premier mort qu'il y a eu à Marseille en règlement de compte, écoutez, je suis à peu près sûr qu'on n'y arrivera pas. Parce que quand j'entends qu'on veut mettre 1 milliard d'euros dans les écoles, il faudrait aussi s'attaquer au problème de savoir qui va aller dans ces écoles. Parce qu'aujourd'hui, certes, les écoles ne sont pas en état de recevoir les élèves, mais le plus gros problème... c'est d'envoyer les élèves, parce que ces jeunes-là ne veulent plus aller à l'école, sont déscolarisés. Et au lieu de rénover des écoles où il n'y aura personne à l'intérieur, il aurait été peut-être plus judicieux de s'attaquer au problème de la responsabilisation des parents qui doivent envoyer leurs enfants à l'école afin qu'ils puissent étudier. La deuxième chose que j'entends, c'est qu'il veut faire un plan de rénovation, semble-t-il, des cités. Bon, moi, j'ai que 46 ans, donc j'ai pas tout vu dans ma vie, mais je crois qu'on en est au 5 ou 6e, et j'ai pas l'impression que ça résolu le problème du trafic de stupéfiants, en tout cas à Marseille. La seule bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il veut mettre de l'argent dans les transports, et effectivement, les habitants des quartiers nord qui veulent vraiment travailler ont des vraies difficultés pour pouvoir accéder au centre-ville ou dans les quartiers sud pour pouvoir travailler. Alors ça, je trouve que c'est plutôt une excellente idée, une excellente nouvelle pour Marseille. Mais si on se contente de ça pour résoudre le trafic de stupéfiants à Marseille, je vous le dis de suite, on a déjà perdu.
C'est terrible de réentendre ces archives parce qu'on a le sentiment que rien ne sert jamais et que les propositions d'Emmanuel Macron, de la même manière, on les aura oubliées dans quelques semaines. Mais je voudrais que vous nous racontiez votre quotidien de policier sur le terrain. J'ai vu ces derniers jours des checkpoints dans la cité des Marronniers. J'ai vu des adolescents qui filtraient les voitures. J'ai vu des herses qui sont abaissées une fois que la voiture est passée. Est-ce dans toutes les cités marseillaises comme cela?
Bien sûr, Pascal Pro, je vous le confirme aujourd'hui, la quasi-totalité des cités marseillaises, je crois qu'il y en a 42 de mémoire dans les quartiers nord de Marseille, ont des checkpoints, ont des herses, ont des murs qui ont été installés, des murs, hein, vous m'entendez, je plaisante pas quand je vous dis ça, c'est des murs. Ils ont mis des grilles qu'ils récupèrent dans des propriétés, ils les mettent à l'entrée de l'immeuble, ils fouillent les voitures, ils contrôlent les papiers des gens qui rentrent à l'intérieur, c'est-à-dire que tout ça, et est une réalité sur Marseille.
Mais la police ne peut rien faire face à ça, pardonnez-moi, Rudy Mana. La police ne peut rien faire, elle ne peut pas aller dans ces quartiers-là, aujourd'hui.
Bien sûr, Alors je vais vous répondre, la police bien sûr rentre, mais quand vous rentrez, qu'ils prennent la fuite en criant le mot que nous sommes arrivés. Vous comprenez qu'il faut déjà qu'on puisse lever tout ce qu'il y a au milieu. Donc déjà on a perdu une minute et on perd une minute pour intervenir sur les trafiquants de stupes. La deuxième chose, on arrive à rentrer encore dans ces cités, mais à quel prix ? À quel prix ? Et puis imaginez qu'on interpelle quelqu'un qui est en train de constituer un mur pour l'entrée de la cité. Mais vous savez ce qu'il va prendre au niveau de la justice ? Il va prendre rien du tout, parce qu'il suffit que ce soit un mineur. Et en plus, s'il est sans papier, qu'il est étranger, je peux vous garantir que 2 heures après, il est libéré et il va avoir un sentiment d'impunité encore plus important qui fait qu'il va recommencer de plus belle. Parce que aujourd'hui, ce gamin-là, il est payé et il vit avec l'argent du trafic de stupéfiants. Donc, moi, je veux bien entendre qu'on va donner des milliards à Marseille pour recomposer les écoles, pour reconstituer ces cités. Ok. Mais si on s'attaquait au véritable problème, parce que là, encore une fois, je vous l'assure, on n'y arrivera pas.
Mais c'est quoi le vrai problème, le véritable problème dont vous parlez ?
Le véritable problème dont je parle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des centaines, voire des milliers d'enfants déscolarisés de 12, 13, 14 ans, 15 ans qui participent à ces réseaux de stupéfiants. On va fabriquer des écoles, mais par contre, on les oblige pas aller à l'école. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les parents et pour cela, il faut peut-être s'attaquer au portefeuille. Parce que quand vous attaquez au portefeuille de ces gens-là, je vous garantis qu'ils vont pousser leurs enfants à aller à l'école. La deuxième solution, c'est aussi de pouvoir faire rentrer tous ces jeunes qui faisaient de la prévention à l'époque, qui ne peuvent plus rentrer aujourd'hui. Parce qu'on a affaire à des associations dans les quartiers qui sont souvent à la botte de certains partis politiques et qui ne sont récompensés que parce qu'ils font voter des centaines de jeunes pour le compte du parti qui les subventionne. Bien sûr, il y a des jeunes formidables qui essayent de faire ce job-là, mais vous avez bien compris que ces jeunes-là, on n'y arrive pas, ils ne peuvent plus travailler comme ils le faisaient à l'époque. La troisième partie, c'est la police, mais je crois qu'aujourd'hui, la police, on est un peu les seuls à rentrer dans ces cités, un peu les seuls à prendre des risques, et on est un peu les seuls à vider cet océan à la petite cuillère. Et la quatrième partie, c'est la justice. Je crois que le garde des Sceaux nous a annoncé 11 nouveaux magistrats. Et il semblerait que c'est une annonce qui n'est pas tout à fait vraie. Alors, il va falloir le vérifier. Mais moi, j'entends à droite et à gauche, de la part du syndicat de la magistrature, de la part des personnes à Marseille qui disent que apparemment il n'y en aurait que 2 ou 3 qui arriveraient. Donc ça sera encore plus compliqué. Et puis aujourd'hui, ces fameuses places de prison, pourquoi Emmanuel Macron n'annonce pas demain qu'il va construire une grande prison entre Marseille, entre Aix, près de Vitrolles, pour dire on a des vrais problèmes pour mettre en prison ces gens parce qu'il n'y a pas de place? Eh bien moi je vais mettre de l'argent pour construire une nouvelle prison. Non, on n'est pas dans cet esprit-là. Donc écoutez, moi je vois pas ce qui peut résoudre le problème aujourd'hui d'après les annonces qu'on me laisse entendre.
Ce qui est sidérant, c'est évidemment les exemples que vous donnez, notamment l'âge de ces jeunes gens qui ont 14 ans, hein, ceux qui sont dans les checkpoints. Pour terminer, ce qui est aussi tout à fait étonnant lorsqu'on vous écoute, c'est que vous n'y croyez plus. Mais est-ce que c'est un sentiment partagé par tous vos collègues ?
Alors je vais vous dire très clairement, on y croit encore parce qu'on rentre par passion. On ne devient pas policier par hasard et vraiment on rentre par passion. Bien sûr que nous sommes découragés, bien sûr que nous sommes même parfois écœurés par la situation. Mais vous savez quoi, on y retourne quand même. Alors on peut penser qu'on est un peu maso parfois, mais je vous assure que le métier de policier c'est un métier très particulier. C'est un métier qu'on fait avec le cœur, que l'on fait avec passion. Et quand je parle de policier, je parle des policiers de terrain, je parle des officiers de police, je parle même des commissaires de police. La totalité de l'institution police a cœur de trouver des solutions à tout ça. La seule chose qui nous décourage, c'est que nous sommes seuls. Nous sommes seuls face à cet océan, à ce tsunami des trafics de stupéfiants et que personne ne nous aide. C'est ça qui nous décourage.
Parce que merci.
Franchement, je vous assure que si on nous donne les moyens de le faire, on le fera encore, avec encore plus de force, encore plus de passion.
Merci Rudy Mana. Et on comprend dans le son de votre voix l'engagement qui est le vôtre. Et à travers vous, on peut saluer d'ailleurs le travail de tous ces policiers qui sont sur le terrain. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'avoir été en direct dans ce RTL Midi. On va parler de Marseille encore avec Didier Raoult. Est-il un génie incompris ou un gourou mégalo? Il y a une poêle de provocation, bien évidemment, dans notre intitulé. Mais vous allez pouvoir réagir maintenant et puis également avec les auditeurs entre 13h et 14h30. A tout de suite.
RTL.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas.
La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel actuellement, c'est de la science-fiction.
Je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi.
C'est sans aucun doute l'un des personnages les plus controversés de ces derniers mois. Il a ses détracteurs, ses fans aussi. Didier Raoult ne fera ce soir plus finalement, officiellement pardon, partie de l'APHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. À 69 ans, la direction n'a pas souhaité le prolonger ni comme professeur d'université, ni comme chef de service. Il parle d'une tentative de putsch. Bonjour Ariane Chemin.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Vous avez publié une grande enquête, un livre sur le professeur Raoult, livre intitulé « Raoult, une folie française », co-écrit avec Marie-France Etchegon et publié chez Gallimard. Je vais vous poser la question assez directement, comme on se la pose tous. Il est fou, Didier Raoult, ou c'est un génie incompris ?
D'abord, je pense qu'il faut dépassionner la figure de Didier Raoult. Il est fou, c'est un mot beaucoup trop violent, mais lui-même sait qu'il a une part de folie. Il s'amuse de savoir que sa femme qui est psy peut le soir l'allonger sur le divan et lui poser quelques questions ou l'écouter. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que vous dites qu'il passionne, qu'il divise. Je pense quand même qu'il divise moins qu'il n'a divisé. Même s'il conserve effectivement des fans passionnés, souvent aveugles, c'est quand même un tournant, je crois, qui se passe avec cette mise à la retraite et aussi la situation sanitaire de Marseille aujourd'hui.
Est-ce que vous l'interprétez comme une sanction ?
Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les politiques qui se sont mêlés d'écarter Didier Raoult. Les politiques ont laissé faire l'APHP, les hôpitaux publics parisiens, et les hôpitaux publics marseillais. Vous remarquerez qu'on n'a jamais entendu un mot d'Emmanuel Macron sur Didier Raoult, alors qu'il ne lésine pas avec les anti-vax, et que hier encore, Olivier Véran racontait que depuis un an et demi, il a tous les jours Didier Raoult au téléphone, donc il n'y a pas de brouille entre les politiques et Didier Raoult, qui se méfient évidemment de son aura et qui ne veulent absolument pas en faire un ennemi public. Donc ils ont laissé faire l'hôpital public.
Ariane Chemin, vous évoquiez à l'instant la situation sanitaire à Marseille. Je voudrais juste qu'on écoute le professeur Jouve, qui est numéro 2 des hôpitaux de Marseille, au micro d'Hugo Hamelin, et on en reparle juste après.
L'IHU est très écouté à Marseille. Ce discours, qui est un discours qui, sur le plan strictement universitaire, tient la route, lorsqu'on en fait des résumés, eh bien, ce discours, ça peut se réduire à non, ne vous faites pas de vacciner, ça ne sert à rien. Et quand ce discours est entendu comme ça, eh bien, c'est un petit peu la catastrophe qui fait que les quartiers nord ont une couverture vaccinale qui est du niveau celle des Antilles.
Ariane Chemin, il a raison, le professeur Jouve. C'est un peu à cause de Didier Raoult si la situation est celle-là à Marseille.
D'abord, ce qui me frappe, c'est que pour la première fois cet été, les médecins de la Timone et de l'hôpital public ont accepté de prendre la parole publiquement en leur nom, ce qui n'était pas le cas pendant un an, parce que Didier Raoult fait peur. Ensuite, effectivement, la couverture vaccinale de Marseille en général, et des quartiers nord en particulier, est catastrophique. C'est quand même la seule région qui évacue aujourd'hui, en tout cas dans la métropole, qui évacue des malades dans le Grand Est parce qu'il n'y a plus assez de lits. Et ça me fait penser exactement à la situation qu'on avait connue à la rentrée dernière, en 2020, où la deuxième vague que Didier Raoult n'attendait pas, dont il disait qu'elle n'était pas possible, eh bien, elle a touché qui en premier ? Marseille. Donc c'est comme si Marseille devenait le symbole, en fait, des errances de Didier Raoult.
Ariane Chemin, qui a écrit « Raoult, une folie française » chez Gallimard. Est-ce que vous avez réussi à percer le mystère de l'hydroxychloroquine ? Aujourd'hui encore, le professeur Raoult dit que ça marche, alors que le monde entier explique que ça ne marche pas.
Didier Raoult, c'est quelqu'un qui est un peu buté. Donc, de toute façon, il ne fait pas confiance aux études randomisées, aux cohortes. Donc, il a décrété que ça marchait. Alors que tous ceux qui avaient défendu la chloroquine, de Michel Onfray
Michel Onfray, il n'est pas vraiment médecin quand même.
Non, mais enfin, il l'avait défendu, puis quand il a été malade, il ne l'a pas prise. C'est exactement ce qui s'est passé avec le président des États-Unis, ou dire Bolsonaro, qui, lorsqu'ils ont attrapé le Covid, ne se sont pas soignés avec le traitement du docteur Raoult, alors qu'il l'avait défendu. C'est ça qui est très intéressant. En fait, Didier Raoult, il croit à quoi ? Il croit d'abord au lavage de mains, au gel hydroalcoolique, il l'a dit, il croit modérément au masque, et il continue à défendre ce traitement qui...
Mais il pense que ça marche. Il dit même à ses médecins, qu'ils ne comprennent pas. Donc là, il y a un moment, tu ne peux pas aller contre une réalité.
Bien sûr que non, parce que Didier Raoult, il symbolise ce qui s'est passé en France, cette espèce de climat pré-Trumpiste, je dirais, où la science n'a plus d'importance, on est dans le domaine de la croyance, et aujourd'hui, la croyance a suppléé le savoir.
Bah, il se défend de cela, pourtant. Hein.
Il se défend de ça, mais en lui-même, je pense qu'il sait qu'il a tort. Simplement, il s'est tellement trompé depuis 2 ans que c'est très compliqué pour lui, qui se disait le premier microbiologiste et épidémiologiste de France, d'avouer qu'il s'est trompé.
Juste d'un mot, Ariane Chemin, certains lui prédisent un avenir politique. Vous y croyez, vous ?
Non, j'y crois pas. Je peux me tromper, mais puisque vous me posez la question, j'accepte de me tromper. J'y crois pas tellement. Je crois qu'en revanche, Emmanuel Macron a vu émerger une figure qui cristallisait des tas de mécontents, une partie des Gilets jaunes, des Marseillais. Et c'est pour ça qu'il est allé le voir, lui rendre visite, et qu'il lui a finalement rendu beaucoup d'hommages avec cette visite au printemps 2020. Ça, effectivement, il commence à être testé par les instituts de sondage l'année dernière. Et donc, il était très populaire. Et donc, les politiques s'en méfient.
Merci beaucoup, Ariane Chemin, d'avoir été avec nous. Et je rappelle votre livre, Raoult, une folie française, c'est publié chez Gallimard.
Et évidemment, ce débat, on va le poursuivre avec les auditeurs. Didier Raoult est-il un génie incompris ou un gourou mégalo? On pourra également parler du trafic de drogue. Est-ce que l'État est impuissant? Vous pourrez revenir sur ce qui se passe au Danemark, c'est intéressant. Parce qu'au Danemark, il n'y a plus de passe sanitaire, plus de masque à partir d'aujourd'hui. Les thèmes des auditeurs ont la parole. C'est également Mbappé qui a jusqu'à minuit s'il veut quitter le Paris Saint-Germain. Pour le moment, ça va être le rappel des titres. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.